Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Clara.
Salut Juliette.
Dis, je crois qu'il faut faire quelque chose pour sauver par Jupiter.
Tu crois?
Mais bien sûr, l'heure est grave, Clara.
Non, mais il en va de la survie de l'émission.
Mais oui, j'ai écouté les best-of depuis le début de la semaine, et ben c'est pas joli joli ce qu'ils sont en train de fomenter.
Oh non, mais t'as raison. Pourquoi ils nous demandent pas notre avis à nous? Je vais te la pimper, moi,
bah
à l'émission.
Oui, mais moi je trouve aussi qu'on a notre mot à dire, en tant que remplaçante officielle de monsieur Alex Vidorek.
Ah ouais, bah c'est pas une remplaçante qu'il lui faut à lui, hein, mais deux, et de luxe en plus.
Je ne te le fais pas dire, et comme par hasard, il les a choisis un peu plus âgés.
Ouais, enfin, parle pour toi.
Dis. Bon. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour l'avenir d'émission?
Bah, j'imagine qu'on a à peu près le même point de vue sur la question.
Mais bien sûr, cette émission est trop ringarde.
Ah bon, non, parce que moi j'aurais dit que ça manquait un peu de balavoine.
Non, ça c'est pas une nécessité. Moi, je pense qu'on n'est pas assez féministe.
Ah bon, parce que moi j'aurais dit qu'on en a pas mal soupé quand même ces derniers temps de MeToo et compagnie là.
Bon, d'accord, je suis sûre qu'on va trouver un terrain d'entente. Il y a pas assez de chroniques littéraires.
Sur des épopées chevaleresques du 12e siècle, je suis d'accord.
Non, moi j'aurais plutôt dit qu'on manquait de figures comme Virginie Despentes, comme...
Attends, tu crois pas que le problème plutôt c'est Guillaume?
Je te cache pas que je me pose la question aussi. On n'a qu'à le remplacer.
Tu ferais Alex et moi je ferais Guillaume, c'est brillant.
Clara, à la rentrée, on prend le pouvoir.
Salut les filles.
Oups, on a oublié Charline.
Bonjour la France Inter, vous écoutez le 4e et avant-dernier épisode des Vacances de l'Humour. L'open space reste toujours open bien sûr, alors on y fait entrer le compositeur et chef d'orchestre Alexandre Desplat, à qui l'on doit tant de musiques de films. Il nous parlera de la politique de l'Europe en matière des droits d'auteur contre les GAFA et des entreprises qui adorent squatter, enfin se payer donc, des lieux culturels. Ensuite nous irons chercher Atik Raimi à l'accueil. L'écrivain franco-afghan évoquera la fréquence des humiliations sexistes en France après un état des lieux dressé par le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Et puis nous parlerons de ces hommes et de ces femmes en jaune qui ont voulu passer du rond-point aux ateliers d'écriture pour apprendre à mieux formuler leurs revendications. Alex, pour ces deux invités de stature internationale, qui avez-vous convié?
Eh bien, d'abord une chronique musicale de Djoubaka qui nous parlera d'une chanteuse qu'il adore, Sylvie Vartan. Bah non, bien sûr que non, il n'aime pas Sylvie Vartan, je comprends pas, il va parler de Sarah McCoy, bon bah ça ira quand même.
Bah c'est super Sarah McCoy.
Aussi. Oh. Guillaume Meurice viendra rendre hommage à Karl Lagerfeld, enfin rendre hommage, ça reste du Guillaume Meurice.
Oui.
Et la chronique littéraire de Clara Dupont-Monod traitera du roman. Notre invité, Atik Raimi. On termine en chanson, évidemment, Frédéric Fromet featuring Michel Sardou, le hijab de course sur Elle court la maladie d'amour.
Et là on entame tout de suite l'émission avec un maestro oscarisé. Alexandre Desplat, mesdames, messieurs.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Alexandre Desplat.
Merci de m'accueillir.
Ben, nous sommes très honorés de votre visite. Vous venez nous voir aujourd'hui, et on est très curieux de ça, parce que vous créez votre premier opéra, opéra de chambre, intitulé Silence, d'après une nouvelle de Yasunari Kawabata. Le livret a été coécrit avec Sol Ray, votre compagne, Alexandre Desplat. D'abord, expliquez-nous, pour nous qui sommes béotiens en la matière, qu'est-ce qu'un opéra de chambre? Et est-ce que c'est un fantasme pour un compositeur et un chef d'orchestre quand même?
J'avais jamais pensé écrire un opéra, et puis en lisant cette nouvelle il y a quelques années, j'ai trouvé qu'il y avait un objet très poétique et très très retenu, peut-être comme souvent les romans de Kawabata. Et il y avait quelque chose qui vibrait quand je lisais ça. Je me suis dit que c'était possible peut-être d'écrire pour la voix, ce que je ne fais pas beaucoup au cinéma. Mmh. J'écris beaucoup pour l'orchestre ou pour de la musique de chambre, des petites formations ou du jazz ou d'autres, mais j'ai jamais écrit pour l'art lyrique, donc c'était une prise de risque un peu bizarre, mais j'ai pensé que c'était possible. Alors justement, le fait que ce soit un orchestre de chambre, un opéra de chambre, c'est une petite forme. Mmh. C'est pas très long, ça fait pas 5 heures. Il y a pas de chœur et un orchestre symphonique, il y a seulement 10 musiciens, un narrateur et deux chanteurs. Donc c'est une petite chose où je vais à peu mesurer dans l'art lyrique. Mmh.
Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher un texte japonais?
Oh, j'ai toujours aimé la culture japonaise en général, des arts martiaux au kimono, en passant par le thé vert que je bois tous les matins.
Mettez un peu de miel dedans.
Ah non, surtout pas.
De bois.
Ah, Vous savez qu'en 8e, on faisait beaucoup de blagues sur des plats, d'ailleurs. Je vais voir. Ça, j'étais en 8e.
Vous nous les donnerez tout à l'heure.
En 9e fait. Aussi, je me battais beaucoup.
Je suis le cancre de la classe, vous le savez bien.
Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, non, voilà. Donc, c'est cette proximité que j'ai avec la culture japonaise que j'ai toujours beaucoup aimé. Et Solvay aussi, d'ailleurs.
Est-ce que dans cette histoire, justement, vous avez coécrit le livret avec Solvay, qui met en scène ici aussi. Est-ce qu'il y a une, voilà, vous avez trouvé dans cette histoire de Yasunari Kawabata, où il y a, ça parle de création et d'empêchement dans la création.
C'est ça.
Vous pouvez raconter l'histoire.
En deux mots, c'est très, très simple. C'est un jeune écrivain qui rend visite à son vieux maître, qui ne peut plus écrire, qui lui aussi écrivain, et qui ne peut plus écrire, qui a une attaque, qui est donc aphasique et paralysé. Et c'est le questionnement de sa fille et de ce visiteur sur l'impossibilité de créer. Comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Comment est-ce qu'on peut continuer à faire vivre l'œuvre de cet homme? Et il se trouve que Solvay a vécu, elle était violoniste, elle a vécu un peu une tragédie de ce type. Donc c'est quelque chose aussi qui était proche de notre... de nous.
De votre
de notre
histoire.
Nous.
Ouais. Est-ce une hiérarchie parce que pour les comédiens qui montent sur scène, on leur demande toujours et le cinéma, est-ce que tu en rêves? Sous-entendu, pour un acteur, l'aboutissement c'est le cinéma. Est-ce que pour un musicien, l'aboutissement c'est l'opéra et vous vouliez peut-être aller vers ce
non, art-là? Pour moi ça n'a jamais été un aboutissement. Non, déjà écrire pour un orchestre symphonique ou écrire un quatuor à cordes, c'est quelque chose de c'est un Everest déjà. Non, l'opéra c'est un, je crois que c'est un choix esthétique, faut aimer le mot, faut aimer la prosodie. Des compositeurs comme Pascal Louis Sapin ont écrit beaucoup d'opéras, je crois qu'il est à son 7e ou son 8e, il vient de finir un Macbeth, et c'est quelque chose qui vraiment le fait vibrer le matin. Moi je fais plus vibrer mes sensations par les images, donc c'est aussi une autre...
Et vous êtes facétieux parce que votre premier opéra s'intitule Silence, et ça quand même...
Ça s'appelle Silence, et j'ai perdu ma voix cet été en l'écrivant.
C'est même, en plus. Quoi. Vous passez de l'image au spectacle vivant, est-ce que vous cherchez à vous confronter au vivant et à l'accident finalement?
C'est à la fois se confronter à l'accident, se confronter à un autre média que ce que je fais jour et nuit depuis des années maintenant, même si... Par le passé, j'ai écrit pour le théâtre, mais c'est vrai que d'abord écrire pour la scène, on peut se cacher derrière rien du tout. Il y a plus de dialogue, il y a plus de bruitage. C'est la musique et le spectateur en direct. Donc c'est déjà un challenge énorme. Et puis dans l'espace qui va être celui du Grand Théâtre du Luxembourg puis des Bouffes du Nord, il va y avoir cet espace minimal que Solvay a créé. Et là, les musiciens, au lieu d'être cachés dans une fosse, ou en noir comme ça, cachés derrière un rideau, vont être sur scène avec des costumes magnifiques que Pier Paolo Piccioli a dessiné, et ils font partie de la mise en scène. Donc il y a vraiment un travail où la musique fait partie du spectacle vivant, mais complètement. Elle n'est pas, voilà, les musiciens sont pas cachés en coulisses ou dans une fosse. Alors qu'à l'opéra, très souvent, les musiciens disparaissent, sont cachés au fond quelque part.
Oui. Chewbacca, quand on parle musique, on s'échappe.
Eh ben, on y va.
Emmenez-nous.
Eh ben, justement, il y a des jours où une voix peut avoir le pouvoir de prendre une forme étrange. Elle peut vous donner le sentiment qu'elle vous accompagnera longtemps, comme une amie sûre, que vous la trimballerez au fond de votre tête, comme un trésor caché. Un de ceux que l'on partage, et en espérant qu'il fera le même effet à nos potes et nos potesses un soir de mouise. Et puis la voix de Sarah McCalla, pour moi, a cette sorte de pouvoir.
I bit the skin from off my lips, hoping that damn words would come but nothing did. I'm pulling lashes from my eyes, wishing you'd see me but you stay blind.
I pull the drums
from out my ears.
Et j'ai découvert en fait Sarah McCoy il y a une paire d'années.
Ça nous calme
tout de suite, c'était beau quoi. Peut-être plus lors d'un concert à Paris. En fait, j'étais arrivé un peu à la bourre et je suis resté au fond de la salle, mais pas bien longtemps parce que à la fin de la première chanson, je me suis collé au premier rang pour pas perdre une miette de ce qui se passait à ce moment-là. Et pendant qu'elle chantait, je pensais à Janis Joplin, à des chanteuses de blues des années 20, et elle interprétait ses chansons avec une telle conviction, ça sentait le vrai, pas de fioritures, pas de paix d'emballage cadeau quoi. Elle déversait une mélancolie vraiment tapageuse, elle susurrait, elle rugissait. On savait pas du tout ce qu'allait se passer, en fait, dans la seconde d'après, et quel chemin elle allait prendre. Après le concert, en fait, je l'ai croisée dans la salle ou au bar. Elle était pieds nus avec du whisky à la main, et depuis, j'attendais. Je me disais, mais Sarah McCoy, quand est-ce qu'elle revient, quoi. Et là, voilà. Donc, elle revient avec un disque. Ezra McCoy, elle vient d'une famille de 6 gamins. Son père, c'est un ancien flic de Brooklyn. Elle grandit, est-ce avec sa belle-mère, qui est une ancienne nonne reconvertie en institutrice. Et puis, enfant, il y a un ami de la famille, un forain, qui offre un piano. Et elle commence à jouer et intègre très très vite une école. Et elle raconte que ses vieux étaient pas du genre mélomane. Elle n'avait pas le droit de pousser la chansonnette, en fait. Si elle voulait pousser de la voix, il fallait qu'elle fasse le tour de la maison pour ne déranger personne. Donc, pas facile, tout ça, quoi. Et à 20 ans, son père meurt. Elle prend la route. Elle traverse 44 des 50 États américains, souvent en stop. Elle apprend la guitare avec un clodo à San Diego. Elle chante dans la rue, elle bosse dans les bars. Elle s'installe au piano des bars quand on la laisse le faire. Et puis elle débarque à la Nouvelle-Orléans et pose ses sacs. Et cette ville entretient vraiment avec les musiciens une relation incroyable. Elle semble les nourrir, elle les protège, elle leur permet vraiment d'être meilleure. Et elle dit que là-bas, la musique est partout, qu'elle coule comme du beurre chaud sur les trottoirs. Je trouve ça joli, moi je la crois. Et elle finit par atterrir au Spotted Club.
Ça glisse. Hein,
ça glisse
même.
Complètement. C'est un des clubs du quartier français. Et bien sûr, on la remarque. Elle a pas encore 25 ans, elle ressemble à personne. Et elle commence à tourner, le bouche à oreille s'installe. Et c'est ainsi que Chilly Gonzalez, votre pianiste préféré
oui.
dorénavant, fait sa connaissance à Paris et décide de produire son album Blood Siren. Il y a presque un an, elle rentre donc en bonne compagnie au studio Ferber à Paris. Et les 13 titres de ce disque, qui sera disponible la semaine prochaine, parle d'elle, de ses dérives, de la Nouvelle-Orléans et de plein de petits monstres, ceux que l'on garde cachés au fond de nous, aussi mystérieux que ce sang des sirènes qui donne son titre à ce disque, apparaître sur le label Blue Note. Elle est actuellement en tournée un peu partout en France. Elle s'appelle Sarah McCoy et on écoute Boogeyman.
If I could catch you like a fish, if I could weave a web of time, I would catch you in a moment now, and in that moment for forever you'd be mine. Well, I would hunt you like a wolf, I would stalk you through the night, I'd be hiding in a shadow now, where you can't see me until that moment is just right. I would be your boogeyman, hiding underneath your bed. Well, now I would watch you sleeping, yeah, lovely dreaming. I would hold your hand, I would be your boogeyman. Yes, I would be your boogeyman. Trap you, track you, bait you, I would find you and sedate you, I'd tag you, I'd cage you, then I'd rename you. But you in captivity is too heartbreaking for me. I'd like to trap you and track you and keep you, but I'll catch you and release you, because I can, because I can, because I can.
Sarah McCoy, merci Djoubaka. Abordons ce premier sujet qui paraît technique.
Mais vous nous connaissez, ça va tout de suite être beaucoup
plus
simple.
On aime la technique. Hein.
Pour protéger les œuvres, les Américains ont le copyright. Pour l'Europe, eh bien, l'Europe elle travaille à la protection des droits d'auteur pour que les journaux et les agences de presse soient rémunérés quand leur production est exploitée par Google, par exemple. Et pour que les plateformes en ligne qui diffusent de la musique et des vidéos, elles aient des obligations. Paris et Berlin ont enfin réussi à trouver un accord et donc la réforme du droit d'auteur en Europe est relancée. On attend la directive pour le printemps.
Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens.
Ne rigolez pas, c'est magnifique, c'est Arnaud Estromaille.
Ah oui, bien sûr.
Eh oui, putain, putain, c'est vachement bien. Alexandre Desplat, l'Europe...
Je suis pour.
Allez, sujet 2.
Une autre question.
Vous êtes engagé comme chroniqueur immédiatement.
Je suis pour tout ce que vous dites.
L'Europe se casse la tête pour protéger le droit d'auteur, trouver des accords, se prémunir contre la voracité des GAFA. Vous qui travaillez aux États-Unis et en France, est-ce que vous avez vraiment, pour les droits d'auteur, un pied sur un continent, un pied sur l'autre? Et est-ce que vos œuvres sont mieux protégées d'un côté que de l'autre, grosso modo?
Mes œuvres sont protégées de toute façon, mais c'est pas vraiment la question. Elles sont protégées de fait, mais quand vous... si vous voulez, les sociétés de répartition ont passé des accords, par exemple, il y a très longtemps avec les studios... américain, et par exemple sur le DVD, les compositeurs ou les auteurs n'ont pas de droit.
Ah bon ?
Et c'est intéressant, aux États-Unis. Donc, mais ça ne suffit pas, semble-t-il. Il faut encore peut-être laisser partir plus de droits. Mais non, la seule chose que je veux dire, c'est que le droit d'auteur, c'est un droit fondamental et qui permet aux jeunes compositeurs, aux jeunes auteurs de survivre. Moi, j'ai survécu grâce à mes droits d'auteur quand j'étais un jeune compositeur. Mmh. Et sans ces droits d'auteur, je serais pas devenu compositeur, c'était pas possible. Oui. Je refais autre chose.
C'est normal que si une de vos œuvres soit utilisée, consommée, vous touchiez quelque chose.
Oui, mais il y a toujours cette tentation de supprimer le droit d'auteur. Donc il faut toujours combattre cette tentation. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous avez remarqué en ce moment qu'il faut combattre pour empêcher que l'auteur revienne en arrière.
Et vous faites confiance à l'Europe ou vous êtes plutôt pessimiste sur ce combat? À votre avis, c'est un combat gagnable?
Moi, je fais confiance à l'Europe en général. Voilà. Je me pose pas la question. J'essaie juste d'être sûr que en tout cas en France, la SACEM et la SACEM, toutes les sociétés de répartition soient unies pour...
Parce qu'il y a les GAFA devant.
Oui. Mais il faut se protéger et défendre nos droits comme... On le fait toujours.
Vous écoutez Par Jupiter en compagnie d'Alexandre Desplat. On va vous soumettre cet autre sujet. Les lieux culturels louent leurs salles au privé. Un salon est même organisé en ce moment pour permettre aux salles de concert ou aux musées de bien valoriser la privatisation de leurs espaces. Il faut croire qu'avant, les gestionnaires culturels n'étaient pas très doués pour se vendre.
Écoutez, en fait, pour être franc, on a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions là.
Ah bon ? Non.
En fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif.
Inventif ?
Inventif. Alors voilà. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. On supprime l'entrée, je vous suis là-dessus. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif ? Vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware. Avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière et puis à un autre d'apporter de la limonade, ce qui permet de faire des panachés.
Bon, écoutez,
attendez. Pour la déco, j'ai ma petite nièce qui fait des guirlandes en crépons orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch, ça peut faire un truc joli.
Jean-Pierre Macri dans Le sens de la fête de Nakache et Toledano. Alexandre Desplat, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, à titre personnel, comme dirait l'autre, d'entrer dans un lieu de culture pour autre chose que de la culture? Parce qu'il y avait une réception qui était organisée, parce qu'il y avait, on peut pas dire un défilé de celle de la culture, mais une entreprise ait organisé quelque chose, vous étiez là et vous êtes entré dans un lieu.
Vous-même, vous avez loué un lieu. C'est pas...
Non, mais par exemple, les studios Abbey Road maintenant font ça. Et il m'est arrivé d'être en train de mixer dans le penthouse en haut du studio et de descendre chercher un truc à la cantine en bas et de voir que le grand studio A, le grand studio mythique d'Abbey Road et le B étaient loués à des à des entreprises pour des fêtes privées d'entreprises. Ça, je comprends hein, la démarche, la nécessité peut-être, c'est comme.
Ça paraît incongru.
Oui, parce que pour moi, ce sont des lieux ritualisés et c'est ce rituel qu'on aime quand on va dans ces lieux, que ce soit les musées ou que ce soit des studios, des grands studios. Et ça tue un petit peu le rituel, mais bon.
En même temps, fêter son anniversaire au Louvre, vous seriez contre ?
Oui.
Ah oui.
On parle du mariage de Carlos Ghosn à Versailles justement, où il y aurait un prêté pour un rendu, effectivement. Mais oui, on a envie que parfois on comprend très bien la logique financière et de pouvoir entretenir les lieux publics. Mais il y a aussi parfois pour certains lieux qui nous sont chers une forme de sanctuarisation où on y va dans un espèce de respect et ça fausse un peu la chose.
On peut pas en parler trop parce que nous aussi ici c'est le cas, la maison de la radio.
Mais on peut en parler quand même.
Non, mais je veux dire.
Oui, par exemple le grand auditorium. Alors je sais pas. Voilà. Si le grand auditorium, oui, s'il se loue, je pense, le grand auditorium.
Mais ça a fait jaser.
C'était pour Obama. Alors, il y a des lieux de culture qui ont vraiment intégré dans leur modèle économique la location au privé, que ce soit si intégré au modèle économique et qu'on compte à fond là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on prend un risque et qu'il faut rester vigilant?
Pourquoi vous me regardez? Vous pensez que je veux louer mon appartement?
Non.
Mon studio?
Il est sanctuarisé ou pas, votre appartement?
Vous arrêtez tout de suite.
Du moment que ça ne gêne pas que le culturel est toujours le dessus, que vous puissiez enregistrer sans qu'on vous dise ah bah non, aujourd'hui c'est Vinci qui a loué, tu peux pas enregistrer à l'exemple.
C'est vrai que oui, ça peut arriver. Pour l'instant, ça c'est pas présent. Enfin, pas que je sache, de toute façon, je ne peux pas vérifier les plannings, mais. Qu'est-ce que je sais pas quoi dire.
Est-ce qu'Abérode a encore son âme? C'est-à-dire, ça a été tellement désacralisé, le temps a tellement fait son œuvre, finalement, ça veut plus dire grand-chose, Abérode.
Quand on y travaille, ça veut dire quelque chose, parce que le son et les équipes qui travaillent là-bas sont hors du commun. Mais non, mais il y a une nécessité économique qui s'impose et je ne peux pas faire grand-chose.
Et Abérode vend des t-shirts et c'est pas grave.
Si ça, c'est plus grave.
Et ces Pistols, ils vendent des savonnettes.
Hein. À titre personnel.
Tout se fait. Pas de t-shirt Abérode, vous n'avez pas ramené de t-shirt.
Non.
Alexandre, nous avons. On adorerait jouer avec vous. On sent qu'on est au diapason avec vous. On a envie de vous faire jouer si vous êtes d'accord.
Voilà le sketch, parce que vous allez évidemment aller aux deux cérémonies, aux Oscars et aux Césars. Deux salles, deux ambiances. On veut vous préparer un petit peu à ça. Guillaume et Charline sont les hosts de chaque côté. Les Césars, c'est.
Bienvenue à la 44e cérémonie des Césars. Je suis Isabelle Huppert.
Je suis Louis Garrel. Est-ce que vous êtes prêts pour 5 heures de cérémonie?
Merci. Alors ce soir, on va rendre hommage au cinéma. Le cinéma, c'est 24 images par seconde.
Il y aura aussi du rire. Nous regarderons ensemble les meilleures répliques comiques dans l'œuvre de Jean-Luc Godard.
Et un invité très spécial, le ministre de la Culture, Franck Riester.
Waouh.
Eh bien, quelle ambiance!
Les Oscars, c'est une autre ambiance.
Wow! Welcome to the 91e ceremony of the Academy Awards. I am Jennifer Lawrence.
I am Jim Carrey. Est-ce que vous êtes prêts pour la partie tonight?
Tonight, we're gonna have fun, we're gonna smile, we're gonna sing.
We're fantastic, Beyoncé.
And we have a very special guest, Mr. Barack Obama.
Oh, yeah.
Quelle pêche!
Et aux Oscars, vous aurez les prix.
For the best original score, the winner is Mr. Alexandre Desplat!
Oh, yeah, my man!
Alex, are you happy?
Wow, je ne m'attendais pas à l'avoir encore une fois. Amazing! Je voulais dire que la musique au cinéma, c'est l'émotion, l'énergie, la fête, la danse. Mais que ça peut aussi...
Bah merci Alexandre, pas trop long le discours, we're not in France.
Parce qu'au César, vous aurez aussi le prix.
Et dans la catégorie musique originale la plus déchirante dans un drame intimiste en noir et blanc, le gagnant est... Alexandre Desplat.
Bravo Alexandre, tu m'as pris aux tripes. Hein. Quand je t'ai entendu, j'avais tellement la patate que j'ai réécouté tout Barbara avec deux Prozac.
Je suis très heureux.
Oui, pas trop parce que ça pourrait dénoter Alexandre.
Ouais, pardon, je veux te dire que le cinéma, ce sont des images. La musique, ce sont des notes. Le film et sa musique, ce sont des images, notes. C'est l'humanité dans sa fragilité. Et comme le disait Lacan,
solidarité. Humanité.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Nous, la coordination nationale des intermittents du spectacle, nous sommes la politique antisociale du gouvernement Macron démission.
Pardon Alexandre, ce sont les amis de Juliette Binoche. Et à l'heure où sonne le moment Meurice, vous me dites Alex qu'il va rendre un hommage.
Voilà, il y a pire que décédé, il y a l'hommage de Guillaume Meurice qui peut suivre ce décès. Karl Lagerfeld, on te salue, où que tu sois.
Je suis le référent mode de cette émission, je le rappelle. Je représente l'élégance. Je viens de décrocher un beau contrat chez Kiabi, d'ailleurs. Et je connaissais bien Karl, voilà, qui m'appelait le petit prince de la ZAD. Alors, je suis très ému, très très ému, mais moins que les gens que j'ai rencontrés ce matin devant chez Chanel, rue Cambon. Karl, c'est aussi un empire orphelin aujourd'hui, mais un empire avec une héritière, Chopette, la chatte à Karl, hein, comme on l'appelle vulgairement dans le milieu. Parlons peu, mais parlons Chopette quand même, avec les fans de Karl.
Dans les interviews, il a jamais dit qu'il ferait hériter Choupette de toute sa fortune. Dans les interviews, il dit que Choupette héritera de l'argent qu'elle a gagné, elle.
Ah, parce que Choupette, elle bossait. Ah.
Choupette gagnait beaucoup d'argent. En 2016, elle a gagné 3 millions d'euros.
C'est pas vrai?
Si, si, si.
Mais comment elle a fait ça?
Bah, les campagnes publicitaires, les...
Ah oui, elle a pas été bossée à l'usine.
Ah bah non, c'est Choupette.
Hein. Oui, on l'imaginait pas bien faire les 3-8 quand même, Choupette. C'était plutôt du genre à se lécher le cul sur le canapé. L'élégance française, ça passe aussi par là. Alors, Karl, il adorait les animaux au point d'en faire des manteaux. Et ça, c'est quand même toujours sympa. C'est une belle preuve d'amour. Si Karl vous aimait, il pouvait faire de vous un trench coat à tout moment. Ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'on peut aimer Choupette et défoncer les autres animaux?
Est-ce que le fait d'utiliser la fourrure tend à prouver qu'on aime ou n'aime pas les animaux? Je pense que ça n'a rien à voir.
Ah ouais?
Non, je pense que c'est pas parce qu'on n'aime pas les animaux qu'on fait des manteaux de fourrure.
On peut dépecer des animaux pour se vêtir.
Le mot dépecer est compliqué. Alors en ce moment-là, donc on n'a plus le droit de rien faire.
Alors attends, calme-toi, Martin Luther King. On n'était pas loin d'un Je suis Charlie pour défoncer du ragondin. Alors là, je pose la question, est-ce qu'il y a un juste milieu entre mettre des électrodes dans l'anus des animaux pour pas abîmer leur fourrure quand on les bute et ne rien faire? Moi, je suis là pour poser des questions. Vous savez, je suis neutre dans l'histoire. Alors, j'ai pas d'avis. Ouais, démerdez-vous avec ça. Donc, on n'a plus le droit.
Ok, alors donc on n'a plus le droit de transformer finalement ce que l'on trouve fourni par la nature en quelque chose d'autre. Les animaux, les diamants, l'or, les bijoux.
Est-ce qu'on peut comparer un diamant à un vison?
Oui, oui.
Est-ce que le diamant a un système nerveux qui lui permet de ressentir la douleur?
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aimer les animaux de compagnie tout en détestant les animaux sauvages.
Ah oui?
Bah oui, il y a une différence entre être face à face avec Choupette et face à face avec un grizzly qui va vous dévorer.
Eh oui, on a tous les images en tête de Karl Lagerfeld qui défonce des grizzlies à main nue avant de téléphoner à Kate Moss pour lui dire « C'est bon, j'ai une nouvelle collection ». C'est ça aussi Karl Lagerfeld, hein, l'esprit chasseur, l'esprit trappeur, j'ai envie de dire. Et c'est un esprit accessible à tous, car le luxe, c'est quoi?
Je crois qu'à un moment donné, le luxe, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'expérience et de volonté que l'on a de... comprendre, partager, apprécier. C'est pas une question de moyens, le luxe.
Vous pensez, ouais?
Oui, je crois que non. On peut vivre luxueusement avec une très bonne tartine de pain brioché.
Oh, pardon, c'est Marie-Antoinette, en fait. Je me suis trompé.
C'est mignon.
Ouais, si vous n'avez pas les moyens de vous payer.
Marmelade d'orange.
Bien sûr, j'ai envie de dire, le luxe, c'est dans la tête. Alors évidemment, salut Karl. Hein, voilà, peut-être qu'au paradis, tu retrouveras toutes les bestioles que tu as fait crever pour faire tes fripes et tous les migrants qui voulaient juste survivre. Voilà, on te laisse avec ce souvenir de fashion victime, voire même de fashion coupable.
Au fil de l'eau, le rameau va bientôt voir Gibraltar. Au bord du ruisseau, Libellule vient reprendre son carnage. Autant en faire quelque chose plutôt que rien. Autant en faire quelque chose. Oh,
Faire quelque chose, le titre de Jean-Louis Murat. Vous êtes bien sur France Inter. Oui, ça, c'est par Jupiter. La deuxième partie vient de sonner et nous accueillons l'écrivain franco-afghan Atik Rahimi.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunaker.
Ah, voilà des paniers.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Atik Rahimi, donc prix Goncourt, bien sûr, pour Saint-Guy-Sabour, La pierre de patience. Et aujourd'hui, vous publiez Les porteurs d'eau, toujours chez POL. Tom est un Afghan exilé à Paris. Il s'appelait Tamim avant. Il est très bien intégré. Un matin, il quitte sa femme, Rina, pour aller rejoindre à Amsterdam sa maîtresse, Nouria. Il laisse aussi sa fille, Lola. Histoire parallèle, car les chapitres alternent entre les deux héros. Youssef, lui, vit à Kaboul. Il est porteur d'eau pour les fidèles de la mosquée. Mais sa plus grande mission, finalement, c'est de s'occuper de Shirin, la femme de son frère qui a disparu, on ne sait où, et dont il est responsable, selon aussi la tradition. Qu'est-ce qui lie ces deux destins entre ces deux héros, entre Tom et entre Youssef, là en Europe, l'autre à Kaboul ?
Deux choses. D'abord, l'amour. L'histoire de Youssef qui à Kaboul, c'est la naissance du sentiment d'amour que lui, en tant comme illettré, analphabète, il ne sait pas ce que lui arrive parce qu'il n'a pas les mots pour les poser sur ses sentiments. Et de l'autre côté, la déchéance de l'amour chez cet Afghan qui vit entre Paris et Amsterdam. Ça, voilà, premier lien. Deuxième lien. C'est le temps, c'est l'époque, c'est la destruction des Bouddhas. C'est le jour, les deux histoires arrivent le jour où les talibans détruisent les deux Bouddhas magnifiques au centre d'Afghanistan.
Vous racontez de façon tellement poétique. Ce que vous dites, c'est vrai, il y a la découverte de l'amour chez Youssef. Et nous, on le découvre parce que le matin, il a la trique. C'est dit crûment, mais vous le dites avec beaucoup de poésie.
Non, c'est vrai, il fallait le dire.
Mais oui, mais c'est vrai.
Ça arrive.
Demain. Pardonnez-moi, c'est un cise qui n'était pas nécessaire, Atik Rahimi. Votre thème récurrent, c'est l'exil, bien sûr. Et il y a cette phrase dans le livre qui est comme un proverbe afghan. L'exil, c'est mourir ailleurs. Alors quand Tom, qui est lui bien intégré à Paris, va fuir vers Amsterdam, est-ce que c'est parce qu'il choisit de mourir là-bas ? Il est en exil et il fuit cet exil par un autre exil.
Enfin, déjà, oui, c'est entre l'exil et la mort. Il y a toujours, comme justement vous avez cité, c'est l'exil, c'est mourir ailleurs. C'est ça, donc la mort et l'exil, c'est très proche. D'ailleurs, le travail de l'exil, c'est presque équivalent du travail du deuil. Donc, on quitte un pays, on laisse des gens derrière soi, une culture, une histoire, et on va ailleurs. Donc, de ce point de vue, oui.
Des étapes du deuil, comme le déni, la colère, l'acceptation aussi. Deuil que vous avez connu, vous dites souvent, quand je suis à Paris, je suis comme un exilé afghan, et quand je rentre en Afghanistan, je suis
un exilé permanent, bien sûr.
Clara ?
Parce que Charline disait, un exilé qui fuit l'exil pour un autre exil, ça veut dire que c'est sans fin ? Ça veut dire qu'on se pose jamais quand on s'est exilé une fois, on s'est exilé pour toujours, en fait ?
L'exil est une maladie incurable. Dès qu'on quitte son pays, ensuite on devient complètement déraciné. On essaie de s'enraciner quelque part, mais il y a toujours quelque chose de votre pays d'origine, de votre culture d'origine, et d'où la nostalgie, la mélancolie, etc. Mais la force, c'est qu'il faut dépasser tout ça, il faut aller au-delà, et faire de cet exil une matière à écrire, une matière à réfléchir, une matière à vivre.
De faire de l'exil, transformer l'exil en racine, en fait.
Absolument. Dire que voilà, maintenant, je ne suis qu'un exilé, un citoyen du monde. Le moment où on accepte ça, ça y est, on peut aller plus loin. Sinon, on reste dans la dépression, dans la nostalgie, dans la mélancolie.
Voilà l'un des thèmes donc fondamentaux des Porteurs d'eau, publié chez POL. Quel est l'état des lieux du sexisme en France ? Eh bien, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est chargé d'en faire un bilan chaque année. Eh bien, le bilan de l'année est tombé ce matin et on apprend que 10 millions de Françaises affirment avoir été victimes d'une injustice ou d'une humiliation. Et pourtant, les hommes font des efforts.
J'adore voir tes longs cheveux flotter dans la brise. Je suis un sacré coco. Toutes les filles me courent après dans la région.
Oh oui, ça j'en suis sûre.
J'ai piqué une fille à Jimmy, le maître d'hôtel, il y a quelque temps.
Oui.
Il était vert, alors il lui a demandé « Mais qu'est-ce que ce type a de plus que moi ?» Et elle lui a répondu « Deux hôtels.
» Oh, tu pourrais t'excuser, au moins.
Tu voulais voir le loup, non ? Bah alors c'était ta chance. Allez, va, retourne chez tes parents.
Parfois, on assiste à des scènes terribles. Malheureusement, le monde est une jungle. L'homme est un loup pour l'homme et surtout pour la femme.
Dirty Dancing, le film d'Émile Ardolino qui était sorti en 1987. C'est un article, une longue interview parue dans l'Humanité, mais c'est dans tous les journaux ce bilan qui est fait par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a donc 4 Françaises sur 10 qui disent qu'elles ont déjà été victimes d'injures, d'humiliations, etc. Même les chroniqueurs humoristiques sont pointés du doigt. Heureusement, à France Inter, on est assez épargnés parce que, paraît-il, il y a des filles qui font de l'humour. Alors, beaucoup sur la chaîne. Alors, plus sérieusement, parlons voilà, du sexisme aussi dans votre regard, Atik Raïmi. Le racisme a une définition. Le racisme, c'est une idéologie fondée sur une hiérarchie entre les races. Le sexisme a pour définition plutôt un ensemble de discriminations, ce qui paraît beaucoup plus flou à déterminer. Le sexisme, ce serait quoi pour vous ? Est-ce qu'il y a un curseur à mettre entre, je sais pas, entre des cultures, entre des pays, entre...
Bien sûr, mais quand j'entends des choses ici en France ou en Europe, dans ces pays-là, je dis mais bon, en fin de compte, on n'est pas très loin des talibans, quand même. Et puis même de temps en temps, je les regrette parce qu'avec les talibans, au moins tout est clair et net.
C'est vrai qu'ils sont moins hypocrites. Ouais.
Je pense qu'Atik...
Voilà, donc voilà.
Atik Raïmi et Charlie, hein, je vous préviens. C'est pour ça que vous êtes
prévenus. Voilà, et c'est vrai que là, par contre, ici, de temps en temps, on va, voilà, un écrivain ou un artiste ou un homme politique et tout ça, dire des choses. Je dis mais voilà, on peut pas s'en sortir comme ça. Mmh. En fin de compte, c'est que et c'est ce problème est tellement ancien. Et notamment avec le monotisme, c'est tellement enraciné en nous qu'on a du mal à s'en débarrasser comme ça. Donc, malheureusement, sur ce point, je suis... Voilà.
Clara ?
Juste, la secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité dit que, je cite, « des actes comme tenir la porte, porter la valise d'une femme, ça... » peut être perçu comme placer les femmes dans une situation de fragilité, affirmant leur besoin d'être protégées. Alors, est-ce que pour vous, Atik Raïmi, la galanterie, la courtoisie relève du sexisme ou pas ?
Bon, ça c'est plutôt un respect, bien sûr, mais...
Ah oui, quand même.
Voilà, c'est comme...
Sinon on appelle Elisabeth Lévy, ça va être réglé.
On ne souffle pas les réponses à l'invité.
Vous êtes galant, Atik Raïmi ?
Parce qu'il y a un piège, il y a un piège, il y a un piège.
Oui, bien sûr. Mais j'essaye. Mais je crois que je ne réussis pas.
Non, mais après, ça se remplace par de la politesse. Parce que la politesse de tenir la porte à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme.
Oui, une femme peut très bien tenir la porte à un homme.
Oui. Oh, j'ai déjà tenu de la porte à des filles, j'avais pas envie de coucher avec.
Hein. Ah, en plus, voilà.
Alors ça, c'est important de le dire.
Voilà, c'est vrai que le curseur du sexisme, la chose est sans doute un peu plus difficile à définir et il faudra peut-être avoir une définition ferme un jour pour avoir un petit peu les points
sur les lignes. C'est ça qui nous manque, c'est une définition. Je suis très demandeur.
C'est vrai que le mot sexisme, ça veut dire tout. Oui, rien.
Ouais,
donc, d'un côté, il faut accepter la différence, mais en même temps, il ne faut pas que cette différence devienne une contradiction.
Mm-hmm.
Donc, voilà, c'est ça le problème.
À Tikraïmi, on ne peut laisser la parole qu'à Clara Dupont-Mono pour parler des porteurs d'eau.
Et oui, c'est le nom du livre de notre invité, donc à Tikraïmi, les porteurs d'eau. Alors, Charline et moi, on aime beaucoup ce personnage qui est assez beau, hein, de porteur d'eau. On le trouve souvent dans les Mille et Une Nuits, par exemple, ou alors dans les contes populaires marocains. Le vôtre, bon, il n'est pas du tout marocain. Il habite en Afghanistan. La pluie n'est pas tombée depuis des mois. Et lui seul sait où se trouve une source, il le sait de son père, et du coup il distribue l'eau et il a un rôle absolument fondamental pour la survie des habitants. Et puis à côté de cette histoire du porteur d'eau, à Tikraïmi, vous déroulez une autre histoire, celle d'un exilé afghan, installé en France depuis 25 ans, il est marié, il a une enfant, et en fait il décide de tout quitter. Mais vous voyez, la construction du récit que je viens de vous énoncer donne le ton. C'est-à-dire que vous avez fait un livre avec deux histoires, autrement dit un livre de la duplicité. Alors, en français, le mot, il n'a pas très bonne réputation. Duplicité, ça suppose une hypocrisie, ça suppose un double visage. Par exemple, dégommer les riches alors qu'on l'est, je vous vois hocher la tête, Guillaume Meurice, ou promettre une action politique et ne rien faire, et on embrasse François Hollande. Non, là, il faut prendre duplicité au sens littéral du terme, c'est-à-dire juste le fait d'être double. Et dans votre livre, les deux histoires du porteur d'eau et de l'exilé se déroulent en ligne parallèle, et par définition, elles ne se croisent jamais. Or, vous augmentez la difficulté à Tikraïmi parce qu'il se trouve que chaque personnage lui-même se révèle double. Donc vous faites de la littérature à quadruple fond. Et à ce stade, on aurait aimé une préface de Garcimore. Mais prenons... c'est une plaisanterie de mauvais goût. Mais prenons l'exilé.
Il arrive,
mais c'était très mauvais. Mais il s'appelle Tom. Bon, votre Tom, il mène une double vie. D'ailleurs, il va rejoindre sa maîtresse, qui elle-même a une double identité. Et le voyage pour la retrouver le conduit vers encore un autre double, cette fois à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire Tom lorsqu'il s'appelait encore Tamim, et c'était avant son exil en Afghanistan. Donc, si je résume, c'est l'histoire d'un porteur de double qui mène une double vie et qui va rejoindre une femme qui est double. Donc c'est un roman que vous avez fait aux racines multicarrées. Et du côté du porteur d'eau qui s'appelle Youssef, c'est pareil, puisque publiquement c'est un homme vendeur d'eau, une figure qui est connue et plutôt respectée dans le village. Mais en privé, c'est un homme qui est torturé d'amour pour une femme qui a une vie cachée. Donc vous voyez, tout dans ce livre met en scène des doubles, tout le monde est habité, c'est un peu « je est un autre » en open bar en quelque sorte. Et au fond, rien d'étonnant. Parce que ce que vous orchestrez là, à Tikraïmi, ce que vous mettez en récit, c'est au fond l'ADN du romancier. Qui vit de la duplicité ? Le romancier. L'acteur interprète un autre, mais l'écrivain, lui, le fabrique. Et pour fabriquer un autre, il faut lui donner des remords, des obsessions, des joies, un passé. Il faut à un moment s'inventer une autre peau. Et donc vous mettez en narration l'essence même de l'écrivain. Et le fait que ça s'appelle les porteurs d'eau, ce n'est pas anodin, puisqu'il y a une parenté entre l'eau et la littérature. Est-ce qu'on ne dit pas le fil du récit, comme on dit le fil de l'eau ? Ou est-ce qu'on ne dit pas puiser l'inspiration ?
Non, on dit puiser.
Voilà, c'est ça en Belgique. Mais sans parler, écoutez bien les expressions, l'écriture fluide, ou alors la source d'un roman. Et d'ailleurs, à un moment, Tom est allongé près d'une femme semi-nue, il est très malheureux, et elle lui dit « Votre source est tarie ». Et parce que, en effet, Tom ne parvient plus à se raconter, il n'a plus de récit. Et heureusement, la femme semi-nue, car il faut toujours écouter les femmes semi-nues, ajoute « Vous savez que notre corps est fait d'eau à plus de 80%, alors nous sommes tous des porteurs d'eau. » Ce qui signifie aussi « Nous sommes tous des porteurs d'histoire ». Et c'est vrai que pris dans son entité, chacun est porteur d'un récit. Je vous donne les références, les porteurs d'eau de Atik Raimi est paru chez POL.
Merci Clara Dupont-Mono.
Et l'étude de l'interprétation.
L'interprétation ?
Vous ne savez pas.
Qui ? Non. Ah, comme l'étude de l'étude d'interprétation. Oui, j'ai dit quelques mots. Ah, et la diffusion ?
Comment ?
La diffusion ?
Quelle diffusion ?
Vous n'avez pas parlé de la diffusion ?
La diffusion.
La diffusion.
Ah !
La diffusion. La diffusion. La diffusion. Vous dites, pourquoi vous dites la diffusion? Qu'est-ce que c'est? Non, la diffusion. C'est un peu différent. Très bien.
Tout en nuance, Le gendarme se marie de Jean Giraud. C'est un reportage de France 3 Régions, donc à Montpellier, qui nous parle de ces ateliers où ces citoyens essaient de formuler leurs doléances. Les ateliers d'écriture, vous en conduisez, vous en avez créé, à Tic Raimi. Alors, participer à un atelier comme ça, quand on a des revendications, qu'on est en colère, revenir en classe pour mieux formuler ses doléances, est-ce que c'est une manière de canaliser sa colère, de la transformer ?
Absolument. Déjà, Dostoïevski disait une chose extraordinaire. Il disait que pourquoi les enfants se battent ? Parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. En effet, j'ai vu aussi en Afghanistan, et puis dans mon roman « Les porteurs d'eau », Youssef, qui est illettré, ce qui lui arrive, il ne comprend pas parce qu'il n'arrive pas à trouver les mots pour les déposer. Donc, ça le rend violent. Et je crois que, en effet, le moment où on arrive à s'exprimer correctement, et puis ça nous permet aussi de réfléchir sur les choses, on renoncerait à cette violence. Gilets jaunes, en effet, si c'est tombe à chaque fois dans une telle violence, parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'exprimer.
Et c'est un mouvement qui n'a pas véritablement de slogan, qui n'a pas le mot.
Absolument. Si, parce qu'il y a Macron enculé dedans.
Non. c'est pas le slogan qui a été englobant comme a pu être Dégage, par exemple, avec les printemps arabes. Kamel Daoud l'a écrit dessus, c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que, pour le coup, non, il n'y a pas de slogan. Un seul qui unifie.
Mais il y a des gilets jaunes qui s'expriment parfaitement bien.
Bien sûr.
Ils sont justement accueillis sur les plateaux de télévision pour pouvoir essayer de formuler les choses. Et la femme qui a l'initiative de la pétition au tout début, agricultrice bio, si je me rappelle bien, elle formule parfaitement bien les
sûr.
Choses.
Mais dans la masse, il n'y a pas de slogan qui ont, de la même façon qu'il n'y a pas de leader, mais c'est lié, je pense, avec cette horizontalité. Mais en effet, pas de slogan, à un moment, ça pose un souci quand même.
Et dans vos ateliers d'écriture, est-ce que vous sentez ça aussi que arriver à formuler, à écrire, apaise la colère finalement ?
Surtout transférer ces colères, ces complexes sur un support qui est la langue et le langage, l'écriture. Ça aide énormément. Bien sûr, la psychanalyse l'a bien déjà montré, et même dans les religions. C'est le moment où on arrive à nommer le sentiment. Qu'on a au fond de nous, ça justement, c'est les matérialiser, c'est les maîtriser, les contrôler.
Mais ceci dit, dans les casseurs, il y a les black blocs, c'est des gens qui sont souvent très cultivés et justement qui lisent. C'est une stratégie aussi, la violence.
Oui, mais c'est pas que... la lecture, ça suffit pas. Hein. Il faut trouver ensuite, au fond de lui-même, ces sentiments-là et les mots qui correspondent exactement à ce qu'on ressent.
C'est-à-dire le but de ces ateliers d'écriture aussi, surtout d'utiliser les mêmes armes rhétoriques peut-être aussi que les politiciens eux-mêmes, parce que ces citoyens formulent plein de choses parfaitement bien, mais il faut avoir parfois aussi les codes pour pouvoir les exprimer et rentrer dans le débat, et on les a pas tous, même autour de cette table.
Oui, absolument. Ouais. Oui, c'est, pour moi, la démocratie arrive au moment où on arrive de transformer le combat en débat.
Donc voilà. Ça, c'est joli.
Vous savez qu'à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous.
Non, il ne savait pas.
Et vous le découvrez. Ça part d'un article parce qu'on a appris que certains touristes voulaient visiter l'Afghanistan en faisant du couchsurfing.
Couchsurfing,
je le dis pas bien. C'est ce qui consiste à dormir chez l'habitant. Mais il y a un couple de Néerlandais qui a eu un petit souci parce qu'il est tombé chez des talibans et il y est resté 5 années. Alors, comment ça s'est passé ? Vous les accueillez ? Le couple de touristes, Guillaume et Charline, qui se rend couchsurfing en Afghanistan.
Bonjour monsieur l'habitant.
Soyez les bienvenus, messieurs, dames.
Oh, ça a l'air tellement authentique chez vous.
Ah, c'est typiquement afghan, madame.
Ah bah tant mieux, parce que nous, les pièges à touristes...
Oh, c'est vraiment pas notre truc, hein.
Et en plus, ici, vous êtes en sécurité.
Oh, dites, c'est très joli, cet abat-jour, là-bas.
Oh non, c'est... ma femme.
Ah oui, d'accord, oui, parce que je me disais, je ne voyais pas l'interrupteur.
Et puis cette ceinture qu'elle porte, c'est très original. Hein.
Fabrication artisanale, madame.
Ah, j'en avais jamais vu des comme ça. Ah,
c'est vrai qu'une ceinture avec des pétards, c'est pas commun. Hein.
Mais, et à côté, c'est sa sœur.
Ah non, c'est ma femme aussi.
Ah d'accord, ah, d'accord. Oui.
Et donc, encore à côté, c'est...
C'est sa sœur.
Ah, mais quand même, oui.
mais c'est ma femme aussi.
Ouais. Alors, dites donc moi une déjà.
Arrête, non, il fait toujours des blagues. Ouais. Non, mais vous aimez l'humour.
Oui, un peu.
Ah oui, bah moi aussi, moi je suis abonné à Charlie Hebdo, voilà.
Ah moi non, je sais plus le pif gadget.
Oui, voilà. Dites, ça vous ennuie si on prend des clichés?
Vous voulez dire comme dans votre sketch?
Non, des photos de vous, des dames.
À vos risques et périls.
Ah oui, donc vous êtes chasseur.
Pourquoi tu dis ça?
Bah t'as pas vu, monsieur a un fusil.
Oh, une Kalachnikov, madame.
Ah, vous chassez quoi? Sanglier, chevreuil, tourterelle?
Non. L'homme écrayant.
Ah, je connais pas ce gibier, moi.
Oh, c'est très tendre.
Il y en a beaucoup.
De plus en plus, malheureusement.
Bon, allez, moi je filme coucher. Hein.
Allez, moi aussi, hein, parce que je vais lire le livre de Florence Aubenas sur sa détention en Irak. Donc,
ouais. Bonne idée. Et si j'étais vous, je commencerais déjà à écrire le vôtre.
L'individu qui entre à chaque fois à la fin de l'émission dans le studio s'appelle...
Frédéric Fromet, bien évidemment. Il rentre discrètement sur le troisième sujet, il s'installe et puis paf, quand on lui donne le micro, la guitare fait place à la parole. Et aujourd'hui, hijab de course, vous vous souvenez d'Hécatlon?
Très bien,
bah voilà.
Bien sûr.
Et ben ça, Frédéric Fromet, il l'a pris comme thématique. Elle court avec son hijab de course pour semer un mollat qui la poursuit Angela bas. Elle tombe, merci bien Décathlon. Quand la sportive s'aplatit dans sa tenue de chauve-souris, on pensait avoir touché le fond avec le déguisement de con du jogger en t-shirt fluo et sa paire de pompes à 200 euros, ses chaussettes de compression, son cuissard qui colle au bonbon, son brassard pour mettre son smartphone. Et voilà la femme faite aussi conne. Elle court avec son hijab de course et bientôt en chador aérodynamique go sport. Elle sue dans sa prison de tissu. Pas de panique, Décathlon propose aussi des boissons. Le hijab est intéressant parce qu'il fait aussi coupe-vent. Un GPS peut être vendu avec, indiquant la direction de la Mecque. Mais d'abord, pourquoi le running? Il y a d'autres disciplines. Allah est grand, écoutons le prophète. Recommandez donc le basket. Mais elle court avec son hijab de course. Elle serait sublime si elle se mettait à l'escrime. Elle court avec son hijab de course. Au JO 2024, elle sera championne de course en sac. Elle court avec son hijab de course. Peut-être qu'elle file pour fuir un cateau pédophile.
Bon Alex, je me propose qu'à cette heure-ci, on aille se poser en terrasse. On l'a bien mérité.
On l'a mérité.
Quand même, voilà. En attendant, comme ça, demain, la venue des Négresses Vertes qui fêtent leurs 30 ans et d'un penseur dont on est tombé fou amoureux des thèses, des théories. Ben si, moi,
vous
oui.
Vous tombez toujours amoureux des penseurs, de toute façon. Vous...
Le penseur suisse Yves Citon. Vivement demain.
À demain.